Chapitre 42. La tentation. Je ne fus pas peu surpris quand, au commencement de la seconde semaine de novembre 1859, en ouvrant ma porte à une personne qui avait frappé, je me trouvai face à face avec M. l'abbé Mailloux, grand vicaire de l'évêque de Québec, celui-là même qui avait conduit l'évêque Dugan dans notre localité en cette inoubliable troisième journée d'août de l'année précédente. Après l'échange préliminaire des formules ordinaires de politesse, il me demanda si nous étions absolument seuls afin qu'il pût me communiquer un message confidentiel de la part des évêques du Canada. Je lui donnai l'assurance que nous étions absolument seuls et que personne ne l'entendrait, excepté Dieu, moi-même et nos anges gardiens. « Alors, me dit-il, je suis heureux d'être le porteur d'un message qui, je l'espère, mettra fin aux effroyables scandales et aux tristes divisions de ces deux dernières années. Vous n'avez pas oublié combien vous étiez cher à ces évêques, ni combien ils étaient bons pour vous. L'évêque de Québec vous avait placé à la tête des deux paroisses les plus importantes, les plus belles et les plus riches de son diocèse, Beauport et Kamouraska. Puis, l'évêque de Montréal vous accorda la plus grande faveur qu'on ait jamais accordée à un prêtre en vous permettant d'aller travailler dans tout son diocèse, partout où vous le vouliez, de concert avec ses curés. Ce même évêque de Montréal, après avoir obtenu du pape le magnifique crucifix que vous gardez comme un témoignage public de l'estime personnelle du vicaire de Jésus-Christ, vous a donné le titre officiel d'apôtre de la tempérance au Canada. Et non seulement cela, mais c'est d'après son avis que la ville de Montréal vous a donné la médaille d'or qui brille sur votre poitrine. Eh bien, ces vénérables évêques, qui vous ont comblé de dignité et d'honneur, quand vous travaillez avec eux, m'ont envoyé avec la promesse qu'ils feraient encore plus pour vous si, comme un bon prêtre, vous reveniez à nous et si vous vous soumettiez à notre Sainte Église. Oh, ne les repoussez pas, ne me repoussez pas, car je suis encore votre ami, comme je l'étais quand vous étiez des nôtres. Oubliez et pardonnez les torts que le dernier évêque de Chicago et moi-même pouvons avoir eus envers vous. Revenez, cher Père Chiniki, à cette Église catholique du Canada qui vous a porté en triomphe. Nous sommes prêts à faire davantage pour vous. Venez sécher les larmes qui coulent sur tant de visages. Venez réjouir tant de cœurs amis qui sont si tristes par suite de votre éloignement de nous. » Et, en disant ces dernières paroles, il prit mes mains dans les siennes, les pressa de la manière la plus tendre et les baigna de ses larmes. Je ne serais pas honnête si je disais que ces paroles et ces larmes ne firent pas une profonde impression sur moi. Mon pauvre cœur humain et pécheur n'était pas indifférent aux honneurs, aux dignités et aux richesses qui devaient être mon partage le reste de ma vie si j'avais accepté le message de paix des évêques catholiques romains du Canada. Je serais devenu la victime du tentateur si mon sauveur n'était venu à mon aide. Mais il était là pour secourir et sauver son pauvre serviteur, faible et à moitié vaincu. En ce moment, un grand, solennel et divin spectacle frappa les yeux de mon âme. Je vis mon sauveur sur le sommet de cette haute montagne où le diable l'avait conduit pour lui montrer tous les royaumes et la gloire du monde. Il me sembla que j'entendais la voix du diable me disant « Je te donnerai toutes ces choses si, te prosternant, tu veux m'adorer. » Mais la réponse que j'avais entendue des lèvres de Jésus fit tressaillir mon âme. « Retire-toi, Satan, car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Elle passa comme un éclair à travers tout mon être et fit de moi un nouvel homme. Je me sentis fort comme un géant invincible, tout en sachant que cette force n'était pas ma propre force, et je répondis. « Mon cher Monsieur Mailloux, je vous suis si bien obligé de l'intérêt que vous me portez, et j'apprécie la sincérité de vos motifs en m'apportant ce message de la part des évêques du Canada. J'accepterais volontiers vos offres si j'avais quitté l'Église de Rome pour des motifs humains. Mais mon Dieu sait que c'est seulement pour son amour et pour lui obéir que je suis ce que je suis aujourd'hui. Veuillez me pardonner le désappointement que je vous cause. Dites aux bons évêques du Canada que je leur suis reconnaissant de ce dernier effort amical qu'ils font pour me persuader de retourner à l'Église catholique. Mais dites-leur aussi que quand même ils m'offriraient toutes les dignités et les incalculables trésors de l'Église romaine, je ne les accepterai pas en échange des trésors que j'ai trouvés dans ma Bible. » Et en prononçant ces dernières paroles, je lui présentai le divin livre. Mes dernières paroles étaient à peine tombées de mes lèvres quand il laissa tomber sa tête entre ses mains et se mit à pleurer pendant quelques minutes qui me semblèrent longues comme un siècle, car je me sentais profondément triste à la vue de ce chagrin étrange et inattendu. Après avoir ainsi calmé par les larmes ses sentiments de désappointement, il leva la tête et me regarda. Mais son regard n'était plus le même qu'auparavant. Son visage ressemblait à celui d'un Iroquois furieux. L'on m'a dit depuis qu'il y avait du sang Iroquois parmi ses ancêtres. Bondissant tout à coup sur ses pieds, il fit un pas vers moi et brandissant son poing auprès de ma figure, il me dit « Misérable apostat, tu signes ta sentence de mort en refusant le message de paix que je viens de te communiquer. Tu connais les droits, les lois et les devoirs de notre Sainte Église. Nos meilleurs théologiens nous disent que tu n'as pas le droit de vivre à partir de cette heure fatale. Et nos saints papes, dans le compendium de nos lois les plus sacrées, le droit canon, nous enseigne que ce n'est ni un meurtre ni un péché de ravir ton infâme vie. Tu as oublié ces lois, il y aura quelqu'un pour te les rappeler bientôt. Tu n'as plus 10 jours à vivre. » Et sa rage était telle quand il proférait ces menaces que sa bouche écumait. Je lui répondis « Je ne suis pas plus ébranlé par vos menaces sanguinaires que je ne l'ai été par vos brillantes promesses de gloire et d'honneur. Je suis le serviteur d'un Dieu qui peut me protéger contre la malice de tous les papes, les prêtres et les esclaves de Rome. Si c'est sa volonté que mon sang soit mêlé au sang des milliers de martyrs que vous avez massacrés, je suis prêt à le verser pour la cause de l'Évangile. » Il était hors de la maison avant que j'eusse achevé mes dernières paroles. Prenant sa canne et son chapeau, il était sorti à pas précipités et il disparut bientôt. Quand même je pourrais écrire un volume pour raconter ce que je ressentis quand je fus resté seul après cette heure ténébreuse, ceux qui n'ont jamais passé à travers une expérience aussi terrible ne pourraient pas me comprendre. Resté seul, je tombai à genoux pour demander à Dieu une nouvelle mesure de sagesse et de courage à l'approche de l'épouvantable conflit qui était imminent. Sur ma table était le 9e volume des œuvres théologiques de saint Thomas. Je l'ouvris et je lus que les catholiques romains avaient tout autant le droit de me tuer maintenant que de tuer un loup qui traverserait leur champ pour dévorer leurs brebis. Un peu plus loin, sur la même table, était le Jure Caronico, où l'Église de Rome enseignait que ce n'était ni un meurtre ni un péché de m'enlever la vie. Bien plus, c'était une action si sainte que les péchés seraient pardonnés aux catholiques romains qui risqueraient sa vie pour ravir la mienne. Le jour suivant, comme j'allais prendre mon dîner, deux de nos chers convertis vinrent me dire « Cher monsieur Chiniki, un bruit se répand ce matin contre votre réputation plus rapidement et plus désastreusement que les feux de prairie qui faillirent détruire notre village il y a quelques années. Vous devez l'arrêter de suite. Si vous ne pouvez le faire, nous venons vous dire au nom de beaucoup de vos paroissiens qu'il vous faudra quitter la place. » « Quel est ce bruit ? » demandai-je. « Nous supposons, répondirent-ils, qu'après vous avoir quitté hier, M. Mailloux se rendit directement chez Jean Bélanger pour y passer la soirée, dire la messe et prêcher ce matin. Eh bien, les quelques catholiques romains de l'endroit vinrent passer la soirée avec lui. Ils restèrent jusqu'à minuit à écouter les plus horribles et les plus scandaleuses histoires sur votre compte. En d'autres choses, M. Mailloux leur dit que vous aviez laissé beaucoup d'enfants illégitimes au Canada, que vous aviez été interdit et obligé de quitter le pays à cause de vos dévergondages. Ceux qui étaient là hier soir, au nombre d'une trentaine, publient cette histoire ce matin. Elle court avec la rapidité d'un ouragan destructeur. Aussitôt que nous l'avons entendu, nous avons pensé qu'il était de notre devoir de venir vous en faire part. Maintenant, vous savez ce que vous avez à faire par respect pour vous-même et pour vos nombreux amis d'ici. » Je leur répondis « Le cher M. Mailloux est bien dur pour son vieil ami. Il m'attribue de grossières immoralités. Hier, il me dit qu'on me tuerait bientôt. Maintenant, je vois qu'avant de m'enlever la vie, les catholiques romains veulent me ravir l'honneur. Avec de l'aide de Dieu, je montrerai à cet ambassadeur du pape et de ses évêques, une fois de plus, qu'il n'était pas dans le pays de la Sainte Inquisition où l'injustice et la cruauté avaient beau jeu contre les prétendus hérétiques. Il y a des lois ici pour protéger notre honneur aussi bien que notre vie. Veuillez venir avec moi chez Jean Bélanger où nous trouverons probablement M. Mailloux et ensuite nous verrons ce que nous avons à faire en la matière. » 5 minutes plus tard, nous étions face à face avec M. l'abbé Mailloux, que nous trouvâmes, comme nous nous y attendions, en compagnie de Jean Bélanger. Sans le saluer, je lui dis « Monsieur Mailloux, veuillez me dire devant ces deux témoins et M. Bélanger, qui est ici, s'il est à votre connaissance que j'ai laissé un grand nombre de bâtards au Canada, et si vous avez raconté cette histoire quelque part. » À cette question, il devint aussi pâle qu'un mort, et d'une voix tremblante, il répondit « Non, monsieur, je n'ai jamais dit rien de semblable. Je sais que vous étiez un bon prêtre au Canada, et que vous n'avez jamais commis de pareils crimes. » Il avait à peine prononcé ces mots que Jean Bélanger dit, en proférant un terrible jurement, « Monsieur Mailloux, n'avez-vous pas honte de nier une pareille chose ? Hier soir, en ma présence et en présence d'une vingtaine de témoins, vous avez dit que le père Chiniki avait une douzaine de bâtards au Canada. » Monsieur l'abbé Mailloux répliqua, « Je n'ai pas dit qu'il en avait. J'ai dit que j'avais entendu dire qu'il en avait. » Bélanger, lâchant un autre juron, répondit, « Non, monsieur, vous n'avez pas dit que vous aviez entendu dire, mais vous avez affirmé qu'il en était ainsi. Vous devriez avoir honte de le nier ce matin. Allez-vous-en et ne mettez plus les pieds chez moi. Maintenant, monsieur Mailloux, dites-moi devant ces gens si vous croyez ou savez que j'ai été coupable de ces crimes au Canada, comme vous le prétendez. » Il répondit, « Non, monsieur, je ne crois pas cela. Je crois que vous étiez un bon et honnête prêtre. Maintenant, monsieur, pouvez-vous me dire en face que j'ai été interdit et chassé du Canada par les évêques ?» D'une voix à moitié étouffée par la honte, il dit, « Je ne puis dire cela, car je sais le contraire. Je sais que l'évêque vous a offert en témoignage de son estime un calice d'argent pour dire la messe. » Alors, Bélanger reprit de nouveau avec un autre juron, « Vous êtes un menteur, car vous nous avez dit hier soir que les évêques ont chassé M. Chiniki du Canada. » Alors, dis-je, c'est tout ce que je veux savoir. Adieu, monsieur. En revenant avec mes deux amis, ils me conseillèrent de le poursuivre et me dirent qu'ils pouvaient trouver au moins 30 témoins qui avaient entendu le dire. Non, mes chers amis, répondis-je, ce n'est pas la manière chrétienne d'agir avec nos ennemis. Je préfère suivre le conseil du Christ. Pardonnez. En outre, ces calomnies de la part de mes ennemis ne me font aucun tort. Ils font plus de mal à leur cause qu'à la nôtre. Ces calomnies portent leur réfutation avec elles-mêmes et ne déshonorent que leurs auteurs. Vous voyez combien il était confus et tremblant en ma présence et comment il a été chassé de la maison de son meilleur ami. 4 jours plus tard, le juge de Monténo, une petite ville voisine, vint me voir. « Je pense qu'il est de mon devoir, M. Chiniki, me dit-il, de venir vous avertir qu'il y a une conspiration formidable parmi les prêtres et les catholiques romains de Bourbonnais pour attenter à votre honneur. Hier, j'ai été, en ma qualité de juge, témoin d'un fait qui le prouve. Vous connaissez Mme Brosseau, qui passe pour être la plus jolie femme de la ville. Eh bien hier, quand son mari est revenu de la maison pour dîner, il a trouvé sa femme tout en larmes dans son salon. « Qu'as-tu, ma chère ? » lui dit-il. « Es-tu malade ?»« Non, je ne suis pas malade, mais je suis triste. J'ai sur la conscience un fardeau qui est plus lourd qu'une montagne. J'aurais dû te le révéler depuis longtemps, mais je n'ai jamais osé. Tu te rappelles que quand tu étais en Californie, il y a quelques années, le père Chiniki était notre curé à Bourbonnais, et je devais me confesser à lui. Mais, au lieu de se conduire avec moi comme un prêtre honnête, il fit des choses que j'ai honte de répéter. Mais maintenant qu'il est devenu apostat et qu'il cherche à détruire notre sainte religion, je pense qu'il est de mon devoir de révéler la vérité. » Brosseau, naturellement, était furieux contre vous. Il dit à sa femme, « Je dois faire punir cet infâme Chiniki. Je m'en vais trouver le juge Babi pour lui demander quel est le meilleur moyen de le poursuivre. » Quand il fut avec moi, Brosseau me raconta l'histoire qu'il avait apprise de sa femme. Je lui dis qu'il faisait bien de vous punir comme vous le méritiez, mais j'ajoutais, « Il faut que j'aille avec vous pour recevoir la déposition de votre femme. » Quand je fus avec elle, en présence de son mari, non seulement elle répéta ce qu'elle lui avait dit, mais encore beaucoup d'autres choses. Je la félicitai de son courage et lui dis, « Madame, je vais maintenant écrire votre déposition en présence de votre mari. Donnez-moi les détails de l'infâme conduite de Chiniki, car il sera nécessaire de présenter tout cela devant la cour. » Et je commençai à écrire. Je couvris 3 feuilles de papier du récit des actes les plus infâmes qu'un homme puisse commettre et qu'une femme puisse révéler. Alors, je tirai cette Bible de ma poche et je dis, « Maintenant, madame, vous allez jurer sur cette Bible que ce que vous venez de dire est la vérité, car en ma qualité de juge de paix, je dois avoir votre serment avant de pouvoir faire un autre pas en cette matière. » me regardant d'un air de détresse et tremblant de la tête aux pieds, elle s'écria : « Est-il possible qu'il me faille jurer ces choses ? Oui, madame, nous ne pouvons aller plus loin sans votre serment. » Alors, fondant en larmes et se cachant le visage avec les mains, elle s'écria : « Je ne puis jurer cela. » « Pourquoi pas ? » répliquai-je. « Parce que c'est un mensonge depuis le commencement jusqu'à la fin, » dit-elle. Alors son mari s'écria avec une imprécation terrible : « Pourquoi nous as-tu dit de telles abominations contre le père Shiniki, si ce n'est pas vrai ? Parce que mon père confesseur, la dernière fois que je suis allé à confesse, m'avait demandé de le faire, » dit-elle. « Maintenant, monsieur Shiniki, » dit le juge, « si j'avais un avis à vous donner, je poursuivrais ce prêtre immédiatement. » Je répondis « Non, je préfère suivre l'avis du Sauveur. » Quand je quittais l'église de Rome, je savais ce que cela me coûterait. La prophétie du Christ doit s'accomplir en moi comme elle s'est accomplie dans ceux qui ont combattu Rome avant moi. Notre Sauveur nous a avertis de ces choses quand il a dit « Vous êtes heureux lorsque les hommes vous injureront et qu'ils vous persécuteront et qu'ils diront faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et tressaillez de joie parce qu'une grande récompense vous est réservée dans les cieux, car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. »